Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet grave et difficile, mais très important, à savoir le libéralisme. La difficulté de comprendre et d'admettre le libéralisme, c'est que on est face à une incohérence intellectuelle et qui plus est, chez des personnes intelligentes. Et on ne se rend pas compte que le libéralisme n'est pas une erreur, mais un vice du comportement, et nous les catholiques, au moins nous qui cherchons à être logiques et honnêtes, mais nous verrons à la fin que nous ne sommes peut-être pas si honnêtes que nous le croyons, et peut-être pas si logiques que nous le croyons. En tout cas, nous qui pensons être logiques et honnêtes, nous nous demandons comment un libéral, un homme intelligent, qui a d'énormes qualités, peut à ce point donner raison à ses ennemis tout en affirmant qu'il les combat. Alors, qu'est-ce qu'un libéral ? Le libéral a été très bien décrit dans un livre d'Abel Bonnard, les modérés, il les appelle les modérés. Je parle ici non pas du libéral tel que l'entend Léon XIII, pour qui le libéral est un révolutionnaire. J'entends par libéral le libéral modéré, justement, celui qu'on a appelé le libéral catholique. Enfin, c'est une contradiction, on ne peut pas être libéral et catholique. Alors, qu'est-ce qu'un libéral ? Pour faire un libéral, il faut nécessairement des personnes intelligentes, brillante et douée, qui, grâce à cela, ont obtenu des places en vue dans la société, et qui ont obtenu légitimement grâce à leur mérite. Ce sont des personnes qui se définissent par les valeurs traditionnelles. Quand je dis qu'elles se définissent, c'est-à-dire que c'est ce qui fait leur définition. Un Philippe de Villiers, par exemple, se définit par des valeurs traditionnelles. Vous enlevez à Philippe de Villiers ce qui est de la tradition française au moins, et puis vous n'avez plus rien. Vous avez une Ségolène Royal. Ségolène Royal, quoiqu'étant d'origine catholique, bourgeoise, on peut dire d'une famille relativement traditionnelle, ne se définit pas par la tradition. Alors elle n'a pas de mal à être à gauche, tandis qu'un Philippe de Villiers se définit par la tradition. Et ce sont des personnes qui sont brillantes, c'est le cas par exemple d'un Philippe de Villiers, je vais vous le citer plusieurs fois parce que on a là le type même du libéral, j'allais dire dans sa pureté. Ce n'est pas que je lui en veuille plus que cela, encore qu'il a fait énormément de mal, énormément de mal. C'est lui qui a été suscité dans les élections pour diviser la réaction, qui déjà n'était pas bien forte, et pas bien, comment dirais-je, ne s'appuyait pas sur les principes. Ces personnes qui se définissent par les valeurs traditionnelles, en raison de ces valeurs traditionnelles, parce que la tradition c'est la vérité, c'est la justice, c'est la vertu, elles ont évidemment conquis des places, relativement légitimement. Alors, le problème n'est pas là. Le problème vient d'un attachement désordonné à ces places en vue. Un attachement louange que ces places leur méritent. Et finalement, on est obligé de dire que ce qui cause le libéralisme, c'est l'orgueil, la vanité. La difficulté d'admettre que quelqu'un est libéral vient de ce qu'il est difficile de discerner cet orgueil, justement. Il est difficile de voir de l'orgueil chez... Bon, arrêtons de donner des noms à chaque fois parce qu'on va croire que je leur en veux. Mais il est normal que nous désignions ceux qui sont le plus dangereux pour notre combat. Or, un pape François n'est pas le plus dangereux pour notre combat. Tout le monde voit qu'il est à gauche. Benoît XVI était beaucoup plus dangereux, parce qu'il faisait figure d'homme de tradition. Monseigneur Felet va être encore plus dangereux, parce qu'il est, il est ou il était à la tête d'une œuvre traditionnelle. Je vous disais, il est difficile de voir que des libéraux sont guidés par l'orgueil. Ils ont tellement de talent par ailleurs. Et puis, de plus, on hésite à porter des jugements moraux, la moralité, sur des personnes. Il faut répondre à une question, puisque tout notre sermon sur le libéralisme va porter sur un jugement moral, et non pas sur des erreurs théoriques, est-il permis de juger les personnes ? Alors la réponse, porter un jugement téméraire, c'est-à-dire avec des fondements insuffisants, des preuves insuffisantes, cela est évidemment illégitime et gravement coupable. Bien sûr, on peut se tromper, c'est-à-dire donner une bonne réputation à quelqu'un qui ne la mérite pas, mais ça, saint Thomas d'Aquin nous dit que mieux vaut se tromper dans ce sens-là. Au contraire, quand il faut porter un jugement et que les conditions sont réunies, ce serait de la naïveté et même de la lâcheté que de ne pas porter ce jugement. Les conditions, les deux conditions, c'est tout d'abord une évidence, c'est-à-dire que les choses nous apparaissent avec certitude, et puis deuxièmement, une utilité pour soi ou le prochain. Ce sont les règles morales qu'on donne au sujet de la médisance. Ça n'est pas médire illégitimement que dire d'une personne du mal lorsque c'est nécessaire, soit pour l'utilité commune, soit pour le prochain, soit pour nous protéger nous-mêmes. Et là, il faut faire attention, vous voyez. Saint Augustin dit que nous devons condamner le péché, mais pas le pécheur. Condamner, oui. Mais Saint Augustin ne dit pas qu'on doive être aveugle. Surtout, lorsqu'il s'agit de la vérité, l'aveuglement est un vice. Le bon Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour être aveugle. Donc nous avons les libéraux, qui sont des orgueilleux, des vaniteux, qui ont conquis légitimement des places en vue, et qui vont tenir à leur place de façon orgueilleuse. La conséquence, deuxième partie de ce sermon, l'attitude du libéral, tout d'abord envers ses ennemis. Le libéral devrait combattre ses ennemis, mais à ce moment-là, il va perdre sa place, il va perdre les louanges, il va être mal vu, il va être bien vu des bons, mais il va être mal vu de la société dans laquelle il a sa place. Et donc, il va faire tout ce qu'il peut pour garder sa place, pour garder les louanges. Et donc, il va fermer les yeux sur le combat mené par les ennemis contre les valeurs auxquelles, cependant, il est attaché. Un libéral est obligé d'anesthésier son intelligence, parce que sinon, il serait obligé soit d'abandonner ses convictions et de faire comme Ségolène Royal, soit de combattre pour les défendre, et de faire comme Cadoudal face à Napoléon, par exemple. Tous les matins, le libéral s'administre une forte dose d'anesthésiant intellectuel. Ça peut être principalement la lecture du Figaro, encore plus du Figaro magazine, qui parle de choses plus ou moins intéressantes, certes, mais jamais du combat. Et le libéral, par conséquent, va chercher un accord avec ses ennemis en refusant de voir que cela se fait au détriment de ses convictions d'origine, ses propres convictions. Non seulement le libéral anesthésie son intelligence et ferme les yeux sur le combat, mais quand cela ne suffit pas, il va chercher un accord avec ses ennemis pour trouver une espèce de donnant-donnant qui va lui permettre de sauver ce à quoi il tient, sans avoir l'impression de trahir ou de trop trahir. De toute façon, comme il a perdu l'amour de ses convictions, vous voyez, c'est très important. Nous avons l'amour de la conviction. Monseigneur Lefebvre avait l'amour de ses convictions, l'amour du Christ-Roi. Le libéral, lui, n'a pas l'amour de ses convictions, il s'en sert pour ce qu'elles lui apportent. C'est pas du tout pareil. Envers ses amis, le libéral n'aime pas les vrais combattants, parce que il l'entraînerait au combat. Et donc, il fait tout ce qu'il peut pour éviter d'être embarqué dans leur combat, et très vite, il est amené à les critiquer et à leur faire des reproches, évidemment. En toute logique, il devrait les encourager, puisque leurs convictions correspondent aux siennes. Mais comme il n'est pas logique, il est acculé à faire des reproches illogiques. Évidemment, par des reproches sur le fond, on va pas reprocher à quelqu'un qui défend la tradition de défendre la tradition. On va pas reprocher à Monseigneur Lefebvre son combat pour faire des bons prêtres. Mais on va prendre des prétextes, des faux raisonnements, des attaques personnelles. Par exemple, c'est facile de dénigrer un ami à cause de ses défauts. Tout ami a des défauts. Il est gourmand, il est impatient, il est peut-être colérique, que sais-je encore. Mais c'est pas ça qui est en cause. Cela n'empêche pas d'être un bon combattant. Et en tout cas, même si cela le rend pas très bon combattant, cela ne met pas en cause les convictions qu'il défend. Vous avez là la raison pour laquelle le pire ennemi des libéraux, ce sont ses amis. Ses amis qui combattent, évidemment, pas ses amis libéraux comme lui. Les pires ennemis de Paul VI, cela a été la tradition. Et non pas la gauche, non pas la gauche dans l'Église. L'attitude de ses ennemis envers le libéral, c'est très surprenant cela. Ses ennemis ont besoin de lui. Et ça, on s'en rend pas assez compte. Pourquoi ? Parce que la révolution est laide, elle est contradictoire, elle est violente, elle est détestable, elle fait fuir. Et quand elle a réussi à s'imposer, c'est parce que justement elle a fait des libéraux, elle a cassé les convictions, elle a obtenu la force. Mais à l'origine, quand elle doit s'établir, tous les hommes bien nés la fuient. Et donc elle a besoin de se cacher derrière des hommes qui présentent bien, et le libéral va être l'idéal pour elle. Un Philippe de Villiers, c'est l'idéal. Un Don Gérard qui a défendu le rite traditionnel de la messe, qui a fondé un monastère d'aspect traditionnel en gardant l'habit religieux alors que tout le monde l'envoyait aux orties. Tout ça, c'est l'idéal pour que la révolution puisse se cacher derrière elle. Et donc, les libéraux et leurs ennemis vont très facilement faire un accord. Chacun donne à l'autre ce qu'il désire. Le libéral demande à la révolution de lui laisser sa place et sa gloire, et celle-ci accepte. En échange, elle lui demande de ne pas le contredire, et le libéral ferme les yeux. Évidemment, c'est un jeu de dupes. Cela ne va pas durer longtemps. Le jeu est inégal, et nécessairement c'est au profit de la révolution, ça ne peut jamais être au profit du libéral. Pourquoi ? Et ça c'est très important, vous voyez, ceux qui ne sont pas convaincus que le libéralisme profite toujours à la révolution et qui pensent que ce petit jeu peut profiter à la tradition, ce sont des libéraux. Pourquoi le libéral ne peut-il pas résister à la révolution ? D'abord parce qu'il a été faible au moment où il avait encore de la force. Quand il a perdu sa force, il peut encore moins résister. C'est comme la jeune fille, vous voyez, qui a été faible au moment où le garçon qui la courtise lui demande de l'embrasser sur la bouche. Quand le garçon, le courtisan, lui demande d'aller plus loin, elle a déjà perdu sa force par ce premier péché, et donc elle peut encore moins réagir. Et puis surtout, le libéral a écarté les principes. Or, ce sont les principes qui donnent la force à une action. C'est la foi qui donne le courage du martyr. Mais si on a couvert la foi d'un voile, il est évident qu'on n'a plus le courage du martyr, et pas même le courage de ce qui pourrait mener au martyre, on se rend bien compte. Dans la situation actuelle, on se rend bien compte que celui qui s'oppose à la révolution, cela peut très mal finir pour lui, je parle aux yeux du monde, je ne parle pas évidemment du salut éternel. Et c'est ce qui explique que je vous fasse un tel exposé à titre de sermon. S'il s'agissait seulement de vous exposer le libéralisme, je ferais une conférence. Mais étant donné qu'il s'agit du courage pour la défense des droits de Dieu contre la révolution, il est normal que j'en fasse un sermon. Je me rends bien compte que tout cela repose sur la conviction et l'amour de la vérité et des principes. Et donc, je crois que la prochaine fois, je vous ferai un ou deux sermons sur la vérité et sur les principes. La vérité, encore, je crois qu'on arrive facilement à voir qu'on peut pas jouer avec elle, encore que beaucoup de gens s'imaginent qu'on va pas la défendre au prix, si le prix coûte trop cher dans la pratique. Mais les principes, là, je crois que les principes, alors très peu de gens connaissent l'importance même concrète d'un principe. C'est cela qui manque au libéral, l'amour de la vérité. En même temps que la révolution progresse, le libéral régresse, évidemment, recule nécessairement. Et le jour où la révolution n'a plus besoin de lui, elle l'élimine, c'est le sort de tous les libéraux, toujours, et ça, ils sont tellement aveuglés qu'ils ne veulent pas le voir. Parce que le combat, vous voyez, est entre deux sagesses, je mets sagesse entre guillemets pour celle du diable, entre deux sagesses, entre deux convictions, entre deux idées fortes qui ne sont pas dans les détails, mais qui concernent tout le sens de la vie. La sagesse de Dieu d'un côté, et la fausse sagesse, c'est-à-dire l'orgueil du démon de l'autre côté. Et tout ce qui est en dessous s'appuie sur cette sagesse, et tous les combats inférieurs s'appuient sur ce combat supérieur qui est celui de la défense de la vérité. On le voit très bien dans les combats en Indochine ou en Algérie. Qu'est-ce que la France faisait en Indochine? Elle défendait la chrétienté. Seulement voilà, la France chrétienne était en même temps la France républicaine, et lorsque l'armée défendit de façon extraordinairement courageuse, avec beaucoup de vérité, de talent, de courage, d'intelligence, la présence française en Indochine. Elle défendait la civilisation. Seulement ça, vous voyez, nous ne nous sommes peut-être pas assez rendus compte que les Viet étaient endoctrinés par les Chinois, endoctrinés par la Révolution, endoctrinés par le marxisme, et nous n'avons pas assez donné la doctrine chrétienne, la doctrine de la civilisation chrétienne, et nous avons cru que l'amour de la France suffirait pour que nos alliés, ceux que nous protégions, se battent avec nous. Mais non, on constate que c'est ça qui a manqué. Vous pouvez lire Le fils de la rizière du colonel Leroy, et qui montre bien ce qu'est une défense chrétienne de la civilisation. Vous pouvez lire La contre-révolution en Algérie, le combat de Robert Martel par Claude Mouton. Ces livres, peut-être plus celui encore de Claude Mouton, est une démonstration convaincante de ce que le libéralisme n'aboutit à rien. C'est dramatique parce que ces guerres contre-révolutionnaires furent des guerres par des combattants qui, de notre côté, cherchaient vraiment à bien faire. Vous pouvez lire « On m'appelait Boulaya ». Vous avez peut-être constaté que je suis dans une gare et que je suis constamment obligé de m'arrêter à cause des bruits parasites. Mais continuons. C'est dramatique, donc, je vous disais, parce que ce sont de véritables héros et qui ont mené ces combats, mais parce que l'Église, peut-être, c'est, je crois que c'est elle qui est coupable, n'a pas assez montré que le combat était un combat de la foi, alors nous ne pouvions que perdre. Lisez par exemple Château-Jobert, le récit de sa vie, Lumière sur ma trace, cela s'appelle. Je trouve Château Jobert pas toujours très clair, enfin c'est une opinion personnelle. Mais il dit que un jour il a découvert les exercices de Saint-Ignace et que c'est là qu'il a découvert ce qu'était la contre-révolution. D'autres exemples historiques. Don Gérard, dont je vous ai déjà parlé, fondateur du monastère du Barou, qui a fait tant de mal, puisque c'est lui, pratiquement, qui, par sa réputation, a encouragé le ralliement à la Rome moderne chez beaucoup de fidèles qui étaient jusqu'alors avec Mgr Lefebvre. Paul VI, selon Mgr Lefebvre, était un libéral. Un homme qui avait peur du monde et qui donc a cherché un accommodement avec le monde. Un autre exemple, j'avais un ami qui est devenu évêque. Il a fait une thèse de doctorat en théologie qui portait sur la présence réelle. Et je lui ai dit, c'est bien toi cela. Le problème, c'est le saint sacrifice de la messe. Au lieu d'étudier le caractère sacrificiel de la messe, tu étudies la présence réelle que personne ne conteste. Et je lui ai dit, ça c'est bien toi, et comme tous les libéraux, de viser à côté de la cible. Avec la présence réelle, on vit gentiment avec le bon Dieu. Tandis qu'avec le sacrifice, on se bat pour Dieu. On est obligé de se sacrifier et donc de mettre sa peau au bout de ses idées. D'autres exemples de libéraux, tous ceux qui défendent le rite traditionnel de la messe, mais évitent soigneusement la défense du Christ roi. Nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Tous ceux qui veulent rendre l'Église forte dans une société démocratique. La démocratie et la royauté sociale de notre Seigneur, la royauté tout court de notre Seigneur, sont contradictoires, sont incompatibles, elles luttent l'une contre l'autre. Tous ceux qui font de la tolérance un principe et du principe une tolérance, ça c'est l'attitude de libéral. Par exemple, les prêtres qui font les mariages sous l'autorité de l'évêque moderniste, tout en prétendant défendre la sainteté du mariage. Alors, je sais bien, ceux qui ont compris le vice de cette attitude n'ont pas besoin qu'on le leur montre, et puis les autres disent « Oh, enfin, quand même, ils n'obéissent pas à l'évêque du lieu, ce n'est pas si grave que cela. » Et aujourd'hui, face au vaccin, au port du masque, au pass sanitaire, on peut dire que sont libéraux tous ceux qui visent trop bas, c'est-à-dire qui s'affolent de cela et qui voudraient continuer à vivre comme on vivait auparavant, une relative liberté, c'est vrai, comme il y a quelques années, et alors qu'en réalité, nous étions déjà des prisonniers du système, des prisonniers du mondialisme. Et bien sûr, nous l'étions moins que nous allons le devenir. Et il est normal de se défendre. Mais il faut bien nous rendre compte que le témoignage qui nous est demandé maintenant, c'est le témoignage de la fidélité au Christ roi, c'est le mépris de la vie ici-bas pour l'amour de la vie éternelle. Celui qui veut sauver son âme la perdra, et celui qui accepte de perdre son âme ici-bas la gagnera pour l'éternité. Lisez Rose U, méprisant de Chine avec Dieu ou avec le Christ, je ne sais plus, et puis Walter Zizek, 23 ans au goulag avec Dieu, etc. Je termine par une très belle histoire. Le curé de Champzeau, sous la Révolution française, Champzeau dans les Mauges, la Vendée militaire, vous voyez, avait cru bon de prêter serment à la constitution civile du clergé, pour protéger ses fidèles, pensait-il, pour garder la place et éviter de les abandonner. Très vite, il s'est aperçu de son erreur et il a retiré son serment. Il est devenu un prêtre assermenté, c'est-à-dire traqué par la Révolution. Le village de Champzeau était un village martyr, persécuté plusieurs fois. Et en 1994, les Bleus, c'était pourtant la fin de la Révolution, plus ou moins. Je veux dire la Révolution sanglante, parce que la Révolution n'est pas terminée même aujourd'hui. attaquent le village et les défenseurs. Donc les femmes ont été envoyées dans la forêt pour se cacher. Les hommes défendent le village, se réfugient dans l'église et dans le clocher. Les républicains mettent le feu au clocher. Et finalement, les flammes montent. Ils ont accumulé des fagots au pied du clocher. Les flammes montent. Et les républicains disent aux assiégés, rendez-vous. Vous aurez la vie sauve, nous vous le promettons, tout est perdu, rendez-vous. Le curé dit au sacristain, ben écoutez, perdu pour perdu, ce n'est pas que j'ai confiance dans la parole des républicains, ben, nous pouvons nous rendre, de toute façon, si nous ne nous rendons pas, nous serons grillés. Le sacristain lui répond, je préfère mourir que de vivre avec ces gens-là. Même s'ils tiennent leur parole, vous voyez. Je préfère mourir que de vivre avec ces gens-là. Et le curé insiste. Et le sacristain lui dit, Monsieur le curé, vous avez l'occasion de racheter dans les flammes le très grave péché que vous avez fait en prêtant serment à la constitution civile du clergé, c'est-à-dire à la Révolution. Alors ne perdez pas cette grâce que Dieu vous donne. Le curé comprend la leçon, reste à son poste, et peu de temps après, une balle le traverse, et traverse le calice. Il avait pris avec lui le calice parce que le calice est consacré. Les saintes espèces avaient depuis longtemps été retirées du tabernacle. Le calice est consacré, et il protégeait le calice. Une balle traverse le calice, traverse le cœur du curé, qui tombe dans les flammes. Voilà le courage que je vous souhaite. Celui du sacristain. Et si vous avez eu, si nous avons eu le malheur, parce que, vous savez, Monseigneur Lefebvre disait une fois à nos confrères, « Chaque matin, quand je me rase, je suis affolé de voir combien je suis encore libéral. » Je crois que nous pourrions tous dire cela. Si Monseigneur Lefebvre osait le dire, je pense que nous pourrions tous dire cela. Alors je vous souhaite de faire comme le curé de Chanzeau. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.